Vous écoutez, on lit pour vous.
Polyhandicap. Qu'est-ce qu'une personne polyhandicapée? Un texte de Diane Lapointe paru le 31 mars 2025 dans Andy Nova. Le polyhandicap se caractérise par une association de déficiences graves, engendrant une restriction majeure de l'autonomie. Il combine une atteinte motrice et une déficience intellectuelle sévère, affectant la perception, l'expression et l'interaction avec l'environnement. Comment le définir précisément? Quelles sont ses causes, ses conséquences et les solutions pour accompagner les polyhandicapés? Définition du polyhandicap en quelques mots. Le polyhandicap est une association de déficiences multiples. Il se caractérise par une déficience motrice et une déficience mentale sévère. Ces déficiences sont souvent causées par un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement. Les personnes polyhandicapées ont une autonomie très limitée et nécessitent une assistance constante. Ce dysfonctionnement cérébral entraîne des perturbations graves et multiples. Elles affectent l'efficience motrice, perceptive, cognitive et la construction des relations avec l'environnement physique et humain. Les personnes polyhandicapées sont dans une situation d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale. Elles peuvent présenter des signes de la série autistique de manière transitoire ou durable. Le polyhandicap se distingue du plurihandicap, qui est une association circonstancielle de plusieurs handicaps avec conservation des facultés intellectuelles, et du surhandicap, qui est une surcharge de troubles du comportement sur un handicap grave préexistant ou une autre atteinte sensorielle ou viscérale. Quelles sont les causes du polyhandicap? Le polyhandicap peut être causé par divers facteurs qui peuvent survenir avant, pendant ou après la naissance. Voici un aperçu des principales causes. Cause prénatale. Malformation. Des anomalies dans le développement du fœtus. Infection. Certaines infections contractées par la mère affectent le bébé. Accidents vasculaires cérébraux. Des problèmes de circulation sanguine dans le cerveau du fœtus. Cause périnatale. Souffrance fœtale. Un manque d'oxygène ou des complications lors de l'accouchement. Grande prématurité. Une naissance très précoce entraîne parfois des complications. Cause postnatale. Traumatisme. Des blessures graves à la tête après la naissance. Arrêt cardiaque, un arrêt du cœur qui prive le cerveau d'oxygène. Causes inconnues. Parfois, les médecins ne trouvent pas d'explication précise. Les recherches continuent pour mieux comprendre ces cas. Facteurs génétiques. Des anomalies dans les gènes peuvent aussi être à l'origine du polyhandicap. Les scientifiques travaillent sans cesse à identifier ces causes génétiques. Chaque cas de polyhandicap est unique et comprendre les causes permet de mieux accompagner les personnes polyhandicapées. Vie quotidienne d'un polyhandicapé. Les personnes polyhandicapées font face à de nombreuses difficultés. Elles ont besoin d'une assistance constante pour les activités quotidiennes. Voici un aperçu de leur quotidien. Assistance continue. Elles ont besoin d'aide pour des tâches comme s'habiller, se laver et manger. Une présence constante est souvent nécessaire pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Communication non verbale. Leur capacité à communiquer est souvent limitée. Elles utilisent des gestes, des sons ou des outils de communication augmentés, comme des pictogrammes, pour exprimer leurs besoins et leurs émotions. Mobilité réduite. Elles peuvent avoir des déformations des membres ou du rachis, nécessitant l'usage d'attelles et de coquilles pour maintenir leur posture. Un fauteuil roulant ou un respirateur fait souvent partie de leur quotidien. Soins médicaux. Les personnes polyhandicapées sont souvent sujettes à l'épilepsie et contractent plus fréquemment des maladies infantiles. Elles peuvent également avoir des difficultés à déglutir, nécessitant parfois des protections pour incontinence. Accompagnement spécialisé. Leur entourage joue un rôle important dans leur accompagnement. Les proches et les professionnels de santé adaptent les soins et les activités pour répondre à leurs besoins particuliers de façon à améliorer leur qualité de vie. Accompagnement et soutien des personnes polyhandicapées. L'accompagnement des personnes polyhandicapées est indispensable. Cela passe notamment par un soutien médico-social attentif qui vise à améliorer leur qualité de vie et à favoriser leur inclusion sociale. Voici quelques types d'accompagnement. L'éducation thérapeutique met l'accent sur l'établissement d'une communication. Elle utilise le langage parlé et des codes de communication spéciaux. Elle fait appel aux symboles ou au toucher. Des méthodes éducatives adaptées sont également testées. La méthode Padovan, par exemple, utilise la stimulation neurosensorielle. La méthode Doman est une méthode d'hyperstimulation. L'éducation conductive apporte des bénéfices réels aux polyhandicapés. Elle accompagne l'intention de l'enfant et utilise une approche globale. Objectifs et moyens. La scolarisation des enfants polyhandicapés nécessite des moyens humains, des locaux et des outils pédagogiques adaptés. Le volet polyhandicap de la Stratégie nationale d'évolution de l'offre médico-sociale fixe comme objectif de favoriser la scolarisation des enfants polyhandicapés. Des cahiers des charges nationaux sont élaborés pour la mise en place d'unités scolaires adaptées. Participation à la vie sociale. L'inclusion des personnes polyhandicapées dans la société est encouragée à travers diverses initiatives. Des actions sont mises en place pour faciliter leur accès à la culture, aux loisirs et aux interactions sociales. Ces mesures contribuent à améliorer leur quotidien et offrent un réel soutien aux proches aidants. Finalement, la scolarisation des enfants polyhandicapés est un réel enjeu pour leur inclusion sociale. C'était Polyhandicap, qu'est-ce qu'une personne polyhandicapée? Un texte de Diane Lapointe, paru le 31 mars 2025 dans Andinova.
Une soirée bénéfice pour agrémenter la vie des résidents de CHSLD. Un texte d'Alexandre Bellemare, paru le 9 avril 2025 dans Le Peuple Lotbinière. La Fondation de santé et services sociaux de Lévis-Lotbinière tiendra, sous la coprésidence d'honneur d'Humano Médical, la seconde édition de sa soirée bénéfice le 29 avril prochain, afin d'amasser des fonds pour soutenir sa mission d'agrémenter la qualité de vie des résidents dans les CHSLD des régions de Lévis et Lotbinière, ainsi qu'à la Maison des aînés et alternatives de Saint-Étienne-de-Lauzon. L'événement se tiendra au Délice Resto Lounge de Lévis sous la formule Souper Spectacle et mettra en vedette l'imitateur Michael Rancourt, tandis que le reste de la soirée sera tout en musique avec Cassandra Picard. L'équipe du Délice est sensible à la cause derrière notre mission, Cassandra Picard et Michael Rancourt également. En plus d'avoir ce talent extraordinaire, Michael vient de la région et sa mère a aussi été hébergée en CHSLD. Pour nous, c'était vraiment la bonne personne à approcher, partage d'emblée Lynn Côté, administratrice à la Fondation. Ainsi, l'événement pourra accueillir 200 personnes et l'argent sera investi dans les projets des milieux de soins longue durée de la région afin d'animer le quotidien des résidents. aménagement de terrasses extérieures, bancs pour le jardin, activités pour agrémenter le quotidien des résidents, zoothérapie, soins de beauté et aménagements sensoriels pour les personnes aux prises avec des troubles neurocognitifs majeurs sont tous des projets pour lesquels ces fonds serviront. On touche beaucoup à la qualité de vie des résidents avec l'argent de la Fondation parce qu'on s'entend que les gens qui sont ici, c'est majoritairement leur dernière adresse et souvent, il ne leur reste plus beaucoup de temps. On les accompagne dans ces derniers moments avec toute la douceur qu'on peut grâce à la Fondation, souligne Mme Côté. Un objectif. Rappelons que l'événement de 2024 était le premier de ce genre pour la Fondation de santé et services sociaux de Lévis-Lotbinière. Sous la formule d'un spectacle bénéfice à l'auditorium du Cégep de Lévis, l'événement avait attiré près de 300 personnes et recueilli un peu plus de 15 000 $. Encore une fois, cette année, l'organisation s'est fixé un objectif de 15 000 $. Notre objectif en CHSLD, ce n'est pas seulement de donner des soins, mais également une qualité de vie, et ça a un coût. C'est pour ça qu'on est là, ajoute l'administratrice à la Fondation. Les demandes sont toujours élevées, et c'est important de faire rayonner et connaître la Fondation auprès de la communauté. Ici, la Fondation de santé et services sociaux de Lévis-Lotbinière est toujours à la recherche de partenaires pour cette seconde édition. La vente de billets est aussi en cours et un reçu d'impôt sera remis lors de l'achat du billet. C'était une soirée bénéfice pour agrémenter la vie des résidents de CHSLD. Un texte d'Alexandre Bellemare paru le 9 avril 2025 dans Le Peuple Lotbinière.
Cet organisme accompagne les personnes analphabètes et en difficulté d'apprentissage depuis 40 ans. Un texte d'Ève Beauregard, paru le 9 avril 2025. Le regroupement des centres d'alphabétisation mot à mot fête ses 40 ans cette année. Cet organisme, dont la mission est d'accompagner les personnes analphabètes et en difficulté d'apprentissage, est bien installé dans les municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay. En 2021, la Fondation de l'alphabétisation estimait à 55 % le nombre d'analphabètes fonctionnels dans la région. On apprend les nouveautés, on a beaucoup de difficultés en vieillissant à suivre les nouvelles méthodes, alors elles nous donnent des trucs pour magasiner en ligne, mais aussi pour ne pas se faire arnaquer par les gens, affirme Jacqueline Bédard-Boilly, qui suit des cours trois fois par semaine à Chipcha. Aujourd'hui, 95 % des communications se font par électronique. Ça nous aide à notre âge. Tous les transferts d'argent se font automatiques. Faut réapprendre. On s'en vient pas pire, commente quant à lui Louis-Henri Perron, qui suit ses cours à Bégin. Il y a des cours d'informatique de base, les garder actifs au niveau cognitif et aussi le niveau social qui est vraiment important, explique Jean-Michel Laforte, enseignant pour la RCA mot à mot. Un de mes apprenants, qui a commencé avec nous il y a 2 ans, ne savait pas où était le bouton « on-off ». Aujourd'hui, il rentre sa clé, pèse sur le bouton, il n'a plus besoin d'aide. Faire des recherches en ligne, documents Word, tout ce qui est au niveau du clavier, ça va vraiment bien. Il est parti de loin, ajoute Chantal Savard, elle aussi enseignante. Le regroupement des centres d'alphabétisation mot à mot fête cette année ses 40 ans. Le tout a débuté dans les années 80, quand la commission scolaire a lancé des cours pour adultes dans les municipalités périphériques. Nous faisions des rencontres de cuisine. On allait chez les personnes pour les aider à lire, à écrire, se rappelle Linda Villeneuve, qui faisait partie de l'équipe qui a démarré le projet. Aujourd'hui, il existe 4 centres à Chipcha, Bégin, Saint-Ambroise et Saint-Charles-de-Bourget. La mission a cheminé avec les années. Le mot « analphabète », Ça fait toujours peur aux gens, mais dans nos moments de vie, on est des analphabètes fonctionnels. Quand j'ai commencé en informatique, j'étais analphabète en informatique. C'est sûr qu'on parle aujourd'hui beaucoup plus de formation de base, explique Mme Villeneuve. Une formation, donc, pour socialiser et apprendre le tout à un faible coût. C'était « Cet organisme accompagne les personnes analphabètes et en difficulté d'apprentissage depuis 40 ans », un texte d'Ève Beauregard, paru le 9 avril 2025.
Le Canada se qualifie pour le championnat du monde des moins de 23 ans. Un texte du Comité paralympique canadien paru le 7 avril 2025. Équipe Canada s'est taillé une place au championnat du monde des moins de 23 ans grâce à une victoire de 55-54 sur le Brésil en demi-finale vendredi au championnat des Amériques masculins des moins de 23 ans 2025 de l'IWBF à Bogota, en Colombie. Lors du match pour la médaille d'or samedi, le Canada s'est incliné 71-44 face aux États-Unis. Les deux premiers pays du tournoi se sont qualifiés pour les championnats du monde M23. C'est superbe, nous irons aux mondiaux. Nous venons de faire un grand pas pour que basketball en fauteuil roulant Canada puisse se qualifier à nouveau en vue du championnat du monde, a déclaré l'entraîneur en chef Daryl Nordell. Compte tenu de la pandémie et du fait que les athlètes n'ont pas joué pendant quelques années, les gars ont intensifié leur jeu cette semaine et il y a beaucoup d'occasions pour certains de ces joueurs à l'avenir avec Équipe Canada. Je suis fier de chacun d'entre eux aujourd'hui. Brandon Louis était en tête du Canada avec 18 points et 3 rebonds. Ibrahim Odza a ajouté 13 points, 10 passes décisives et 8 rebonds, tandis que Broden Nagel a enregistré 10 points et 3 passes décisives dans la victoire. Brandon Louis a joué le meilleur match du tournoi aujourd'hui, s'est exclamé l'entraîneur en chef Nordell. Il a montré pourquoi il joue au niveau universitaire. Il a participé à des matchs comme celui-ci dans le passé. Nous avons compté sur sa capacité de contrôler notre attaque et notre défense et d'avoir un effet apaisant. Le championnat du monde masculin des moins de 23 ans 2025 aura lieu à Sao Paulo, au Brésil, du 12 au 20 juin 2025. C'était Le Canada se qualifie pour le championnat du monde des moins de 23 ans, un texte du Comité paralympique canadien paru le 7 avril 2025.
Une journée pour les personnes autistes et leurs proches, un texte de Renaud Cyr, paru le 7 avril 2025 dans le Haute-Côte-Nord. Avoir un membre de la famille ayant un trouble du spectre de l'autisme, TSA, n'est pas de tout repos. Les organismes de la région, pouvant procurer de l'aide, étaient tous réunis aux Escoumins lors d'une journée de concertation pour le plus grand plaisir des familles. C'était la deuxième édition de cette journée de mobilisation et de concertation qui a pris d'assaut la salle multifonctionnelle des Escoumins le 5 avril. La journée visait à sensibiliser les gens aux troubles du spectre de l'autisme, faire découvrir les organismes qui disposent d'outils et briser l'isolement social. L'éducatrice spécialisée au Centre de réadaptation des Escoumins, Chloé Aymon-Godin, qui est derrière la tenue de cette journée, rappelle que la première édition avait été appréciée par les participants. Ça leur a fait du bien de se rencontrer et de se réunir. En se partageant leur vécu, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls en Haute-Côte-Nord à vivre avec les conditions liées au TSA d'un membre de leur famille, raconte-t-elle. Les services. Des services existent et plusieurs organismes de la région, comme Action Autisme Haute-Côte-Nord-Manicouagan, les services externes de main-d'œuvre de la Côte-Nord et le Centre d'activité d'épanouissement à la vie, anciennement le Centre d'activité de la Haute-Côte, sont là pour en assurer la distribution. Au dire de l'éducatrice spécialisée, il existe quand même des lacunes en Haute-Côte-Nord qui n'est pas avantagée dans l'éparpillement de sa faible population comparativement aux régions urbaines. En Haute-Côte-Nord, il n'y a pas d'école spécialisée et il n'y a pas d'offre de répit pour les familles, divulgue-t-elle. Un projet pour aider les parents. Rien n'existe sur la Côte-Nord en termes de milieu de vie pour adultes qui vivent avec l'autisme, et du côté d'Action Autisme Haute-Côte-Nord-Manicouagan, on prend ce manque au sérieux. La coordonnatrice, Isa-Ève Tremblay, révèle que l'organisme a commencé un projet assez novateur en offrant des 48 heures de prise en charge de personnes autistes dans un hôtel et dans les locaux de l'organisme à raison d'une famille par fin de semaine. Cette dernière fait également savoir qu'un projet plus complet est dans la mire, à savoir l'acquisition d'un local commercial avec des logements pour les adultes autistes à Baie-Comeau dans un horizon de 5 ans, dans le meilleur des mondes. Ça nous permettrait d'offrir notre répit avec nuitée, en plus d'avoir des appartements pour développer l'autonomie chez nos jeunes adultes et nos adolescents, annonce Mme Tremblay. Ces logements permettraient aux individus qui les fréquenteraient de développer leur autonomie et ainsi d'alléger la tâche des parents lorsqu'ils reviennent dans le nid familial. Marché du travail. Chez les services externes de main-d'œuvre, CEMO, de la Côte-Nord, on se fait un devoir d'intégrer les autistes au marché du travail dès l'âge de 14 ans. Bien que les données ne soient pas compilées en fonction des TSA uniquement, la conseillère en main-d'œuvre, Karine Langlois, et la directrice générale, Sonia Ricard, mentionnent qu'il y a une hausse dans la clientèle. On a environ une hausse de 30% par rapport aux 5 dernières années dans notre accompagnement pour les recherches d'emploi des personnes autistes, explique Mme Ricard. Cette dernière souligne qu'il n'y a pratiquement aucune limite quant au potentiel d'emploi des personnes autistes qui peuvent se rendre dans les domaines universitaires. Ils sont tous différents et ont tous leurs forces. On veut montrer qu'ils peuvent être des citoyens tout à fait normaux et ça passe souvent par leur travail, ajoute Karine Langlois. C'était une journée pour les personnes autistes et leurs proches, un texte de Renaud Cyr, paru le 7 avril 2025 dans le Haute-Côte-Nord.
Le Café Richelieu Joyeux de Jonquière, un restaurant inclusif de la rue Saint-Dominique. Un texte de Sarah Léa Bouchard, paru le 5 avril 2025 dans Journal Radio 92,5. Le Café Richelieu Joyeux a officiellement ouvert ses portes au 2449 rue Saint-Dominique à Jonquière, vendredi le 28 mars dernier. Ce restaurant de type pour emporter est bien plus qu'un simple café, employant en son sein des personnes en situation de handicap physique ou neuroatypique qui ont l'opportunité de mettre en valeur leurs compétences tout en créant des liens. Ça fait 1 an que je suis de retour dans la région, mais j'ai commencé à penser à ce projet-là quand je demeurais encore à Longueuil. J'ai essayé de débuter le projet là-bas, mais avec très peu de contacts, c'était très difficile. C'est à ce moment que j'ai décidé de retourner chez moi, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai immédiatement discuté avec le Club Richelieu, qui m'a tout de suite épaulé dans ce que je voulais mettre en place, raconte l'instigatrice du projet et responsable du café, Monique Banville. Les députés de Jonquière, Yannick Gagnon et Mario Simard, ainsi que la ville de Saguenay, ont tous accueilli à bras ouverts l'initiative de Mme Banville et ont accepté d'y contribuer avec plaisir. J'ai aussi fait du porte-à-porte d'entreprise pour avoir des sous, puisque je ne voulais pas avoir de prêt pour ça. Les gens ont été touchés par la cause, ça s'est très bien passé et on a réussi à amasser un bon montant pour lancer le projet. Les gens sont extrêmement généreux ici. Je suis rendu à un certain âge et je veux que le projet soit viable dans le temps et surtout que ça devienne quelque chose que je pourrais laisser en héritage, mentionne-t-elle. La principale intéressée ajoute que le local de la rue Saint-Dominique a ensuite pu être déniché, celui qui abritait jusqu'en novembre 2024 la pâtisserie Vite des Pêchers. Les employés qui y travaillent ont été conseillés par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle, CRDI, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont toujours accompagnés d'un gérant, mais demeurent tout de même autonomes dans leurs tâches s'ils en sont capables. Vaisselle, service, préparation des repas, rien n'est laissé pour compte et les employés sont plus qu'enthousiastes. Nos chaises sont toutes de différentes couleurs, nos tasses sont différentes. Vive la différence, se réjouit Mme Banville, qui invite la population à venir y faire un tour du lundi au vendredi, de 7h à 19h, ainsi que les samedis et dimanches de 8h à 14h. Encourager et servir des produits locaux. La clientèle du café Richelieu-Joyeux pourra s'approvisionner et déguster quelques produits locaux. Le restaurant faisant affaire avec la pâtisserie Merger, le domaine Le Cajot et l'érudit café. On est allé chercher tout ce qu'il y a de meilleur partout, à proximité. Parce que même si nos employés sont différents, ça ne veut pas dire qu'il y a un manque dans la qualité de ce que l'on va servir, admet la responsable. À plus long terme, le café Richelieu-Joyeux prévoit offrir des collations dans certaines écoles sous la gouverne du Centre de services scolaires de la Jonquière, grâce à une entente de service qui sera bâtie avec le CIUS régional. Comme le café se veut également être un lieu qui favorise les interactions sociales, l'équipe souhaite réserver des demi-journées pour y tenir des activités ponctuelles, comme des ateliers d'artisanat. Des artistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean viendront exposer leurs œuvres, qui changeront tous les deux mois. C'était le Café Richelieu-Joyeux de Jonquière, un restaurant inclusif de la rue Saint-Dominique. Un texte de Sarah Léa Bouchard, paru le 5 avril 2025 dans Journal Radio 92,5.